Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume. Consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les Aoussiens de la critique. J'ai nommé Nelly Capriel-Lyon des Arts Occuptibles avec Olivia de Lamberturie qui descend de bateau du L avec Jean-Claude Raspienjas de La Croix et Frédéric Big BD du Figaro Magazine. On parle ce soir de livres d'été signés Philippe Roth, Paul Morand, James Baldwin. À la demande de Frédéric, on va parler du nouveau livre de Madame 50 nuances de Grey et également du facteur Robert Cottard. Dans le courrier de la semaine, Véronique Tadier nous écrit de Clermont-Ferrand. Nous écrit « Cher Masque, ce n'est pas parce que la cage dorée Actes Sud, le nouveau best-seller de Camille Alecberg, se veut féministe qu'il l'est. J'ai plutôt l'impression que la dame, pour bien vendre, a senti le filon MeToo et l'a exploité pour en tirer, sinon un bon thriller, du moins de juteux bénéfices. » Aurore, surprise de l'acharnement du masque et la plume sur la cage dorée, ce n'est certes pas de la grande littérature, mais c'est un thriller et on a envie de connaître la fin. Cela dit, je trouve très bizarre que les hommes du masque se soient sentis visés en tant qu'hommes. Il faut pas devenir parano, les gars, des gens détestables existent, que ce soit des femmes ou des hommes. Pour sa part, Mélanie Boutet de Paris a trouvé suspecte la réaction de Frédéric Becbédé à propos du livre de Camilla Läckberg, La cage dorée. Il s'offusque que cette femme en vienne à tuer son mari pour la simple raison qu'il est un salaud. Je suis étonné de vous voir si choqué quand une écrivaine décide que son personnage féminin va tuer son mari par vengeance, ce qui n'est a priori pas une raison valable à vos yeux. Je vous pensais plus téméraire, monsieur Becbédé. Charlotte s'en prend aussi à Frédéric pour avoir dit « Je n'en peux plus des féministes puritaines ». Les féministes, nous dit Charlotte, souhaitent l'arrêt des violences faites aux femmes, tout simplement. Et elle ajoute, plus tard dans l'émission, ça Nelly s'en souvient, monsieur Becbédé demande « Est-ce que l'on peut frapper une femme au masque et la plume ?» Merci d'inscrire monsieur Becbédé à un stage d'empathie. Faute de sanctions, ça serait le minimum.
C'est la faute de Nelly. C'est difficile quand même, je suis assis à côté d'elle.
C'est toujours ce qu'ils disent.
Béatrice André de Biarritz trouve le masque aveugle sur « L'amour est aveugle » de William Boyd. Au seuil, vous avez chichité, chipoté. Alors cette histoire d'amour est magnifique et qu'elle est en plus une lecture idéale, à la fois érudite et populaire pour la plage. Mais je ne vous en veux pas, car au lieu d'être à la plage, justement, vous nous offrez des masques et la plume inédits tout au long de l'été bis du Sud-Ouest. Rachel Valentin en veut beaucoup à Olivia et à Nelly de n'avoir pas reconnu ce qu'il y a de profondément novateur dans le roman de Maria Pourchet, tant pour l'écriture, le ton, l'adéquation à son sujet. Heureusement, Arnaud et Frédéric ont aimé, compris. Voilà. Et défendu les impatiences chez Gallimard. Défendu ils savent femme. Connaître ce qui en vaut la peine. Merci à eux. Oui. Enfin, Bruno Desbello de Dinard nous remercie, pas pour les livres de Camilla Läckberg, de William Boyd, de Françoise Nyssen, quelle purge, que vous avez longuement commenté, mais pour vos précieux conseils de fin d'émission. Avant de partir pour le Grand Sud, j'ai mis dans ma valise le voyage Marseille-Rio 41 d'Olivia Assayas et Adrien Bosque préconisé par Nelly, le livre de Diana Vreeland préconisé par Frédéric, la correspondance Monet Clémenceau préconisé par Jérôme et le David Thomas préconisé par Olivia. Il est évident que si vous m'avez trompé, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Voilà, c'était la vie de Bruno Desbello. Un an après la mort du grand Philippe Roth, le 22 mai 2018, un volume rassemble ses textes théoriques et autobiographiques, dont beaucoup d'inédits. Ça s'intitule « Pourquoi écrire ?» et ça paraît, ça s'accommode directement en poche, en folio, chez Gallimard, dans une traduction de Lazare Bitoun, Michel et Philippe Jaworski et José E. Camoun. C'est un livre quand même de 640 pages, il faut le préciser. On trouve ici des discours, des essais et même une lettre que j'adore à Wikipédia. Ah,
moi aussi, je crois que c'est...
Qui commence par « Cher Wikipédia, je suis Philippe Roth ». Et là, il corrige toutes les erreurs qu'il a relevées. Et puis, un de mes passages préférés, évidemment, est celui où il relie Portnoy et son complexe, qui provoqua un scandale mondial il y a exactement 50 ans. « Je suis à la fois choqué et ravi », dit Roth, « choqué d'avoir pu être ainsi imprudent et ravi de constater qu'à un certain moment, j'ai pu être aussi imprudent. Portnoy est pétri de colère autant que de désir érotique, mais qui ne l'est pas ?» Bref, dans ce livre, Philippe Roth définit son art du roman. Il répond aussi aux accusations, à la fois d'antisémitisme pour les uns, de misogynie pour les autres. Bref, il y a tout Roth en 640 pages. Frédéric ?
Ben, c'est un auteur qui a été beaucoup attaqué par les féministes.
Entre autres. Hein,
donc, c'est pas forcément un défaut.
Mais fais gaffe à ce que tu vas dire. Hein.
Cela dit, c'est pas un livre. C'est un livre pour les aficionados, pour les rotophiles.
Il y en a beaucoup. Hein.
Il y en a beaucoup.
De plus en plus, quand tu vois les ventes, notamment en France, des romans de Philippe Roth, c'est impressionnant depuis un an. Hein. N'arrête pas d'augmenter.
Il est vrai que, si vous voulez, Philippe Roth explique son œuvre. Il y a des entretiens, des relectures par lui-même de ses livres. Il y a eu un volume dans la Pléiade qui est paru, je crois, cette année ou l'année dernière. C'est nettement plus intéressant peut-être d'aller directement au roman, pas forcément aux commentaires de Philippe Roth sur lui-même. Cela dit, il y a 150 pages inédites. Ça s'intitule « Explication » et c'est là, franchement, à la fin où il y a des textes inouïs et notamment ce texte qui s'appelle « Jus ou sauce » qui se passe dans un restaurant de Chicago où il est à côté d'un cuisinier qui n'arrête pas de répéter « jus ou sauce » à tous les clients pour accompagner leur steak. Et là, il trouve une feuille de papier sur laquelle il y a 19 phrases qui sont les premières phrases de tous ses livres à venir. Je trouve ça, c'est une petite nouvelle vraiment très brillante. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se dit, il va enfin, d'ailleurs lui-même dit « je vais enfin dire la vérité », et il n'arrête pas de mentir dans ce livre, et moi c'est ça que j'aime le plus chez lui, c'est finalement qu'il a toujours joué avec ses doubles, ses alter-ego, que ce soit Zuckerman ou Portnoy, et que c'est ce que je préfère chez lui, c'est sa mythomanie, et pas tellement son auto-célébration. Voilà.
Tu le trouves très vaniteux dans ce livre ? Non, il est...
Ça dépend des textes.
Il s'amuse plutôt de sa notoriété qu'il ne la cultive, non ?
Moi, je trouve au contraire qu'il est très humble, si je puis me permettre.
Je dirais pas jusque-là. Mais...
Ah si, moi, je trouve qu'il y a une interview extraordinaire qui est faite avec un journal suédois dans lequel il explique qu'il a décidé d'arrêter d'écrire et qu'il a relu les 31 livres qu'il avait faits. Et on lui dit « qu'est-ce que ça vous a fait de vous relire ?» Et il cite un boxeur qui est son héros et il dit je vais reprendre ses mots « j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais ». Et je trouve qu'on le croit. Et après, il explique pourquoi le fait d'arrêter d'écrire l'a tellement soulagé. C'est extraordinaire. Mmh. Il dit « je suis comme un oiseau qui est sorti de ma cage. C'est un grand soulagement, quelque chose qui se rapproche du sublime, de n'avoir à se soucier de rien d'autre que de la mort. » Moi, honnêtement, ça m'a donné des frissons tellement j'ai trouvé que c'était beau.
Oui, et après, ça. Je crois pas que ça soit uniquement... moi, je reprends la formule de Frédéric. C'est quand même pas réservé aux aficionados.
Ah non.
Je trouve que ça peut... Tout le monde... peut y accéder, c'est pas
celui qui s'appelle Parlons Travail, en anglais c'est Shop Talk, d'ailleurs c'est plus amusant de traduire Parlons Boutique, mm-hmm. où là il y a des conversations avec Kundera, avec Yvan Klima, avec Edna O'Brien, avec Singer, là c'est passionnant.
La période tchèque par exemple.
Là c'est vraiment des grands écrivains qui discutent making of, comment on fait et tout.
Mais sinon, c'est pas fait en France d'ailleurs, c'est dommage.
Mais au-delà de parler boutique, moi je trouve que c'est une sorte de masterclass sur la littérature et sur ce que c'est que d'écrire. Dans le dernier texte, qui est quand même sublime, qui est le dernier discours qu'il a prononcé en public dans le quartier où il est né, et il dit « je vais pas vous parler de... » Et à chaque fois, évidemment, il parle de ce dont il ne veut pas parler. Et il dit « je ne vais pas vous parler du panier de la bicyclette où il y avait les livres qu'il empruntait à la bibliothèque. » Et il dit « je ne vais pas vous parler du drapeau frappé de l'étoile d'or qui était le drapeau qu'on mettait dans la maison maison des gens qui avaient perdu un mari ou un fils pendant la guerre. Et il dit comment est-ce qu'on pouvait être enfant après ça. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui m'ont donné envie de pleurer. Et la fin de la préface,
alors, Nelly,
fin de la préface aussi, où il dit j'ai envie
me voilà.
d'aller mettre un caillou sur la mort des tombes des miens et dire me voilà. Waouh.
Nelly.
Non, moi, je trouve dommage que... Bon, d'abord, quand, Olivia, tu parlais, cet entretien suédois m'a échappé parce que j'ai grappillé la fin du... C'est vrai que pour moi, j'ai un peu l'impression, juste un mot sur la mise en vente de ce texte, qui est en effet directement en folio, qui est présenté comme le testament littéraire de Roth. Et c'est vrai, comme le disait Frédéric, il y a les trois quarts qui sont déjà parus. Il n'y a que explication à la fin. Non, mais il faut quand même être honnête sur ce qu'on met en vente. Et ils existent d'ailleurs chez Gallimard, les autres textes. Mais
il y a quand même beaucoup de pages inédites.
Mais ce que je trouve dommage, c'est par exemple, là, je suis un peu
jalouse. Dommage, c'est qu'il n'y a pas les entretiens avec Nelly.
Il n'y a pas les entretiens. Français.
Avec toi.
Avec moi, par exemple, et avec d'autres.
Avec Josiane Savigno.
Avec Josiane, avec Michel Schneider, enfin voilà, où il nous a dit qu'il arrêtait d'écrire. Je suis un peu la seule qui l'ait vraiment cru, parce que les autres l'ont évidemment relevé, mais moi je l'ai cuisiné, enfin je l'ai cru, c'est parce que je ne le croyais pas, justement, je l'ai cuisiné.
Tu es la femme qui a cuisiné Philippe Roth.
J'ai cuisiné Philippe Roth. Non, mais je suis arrivée chez Philippe Roth ce jour-là, j'allais pas très bien.
Aux États-Unis.
À New York, il venait d'écrire, il publiait Némésis, en France. Personne ne savait que ça allait être son dernier livre, ou en tout cas ne le prenait pas au sérieux quand il le disait. Et à peine j'arrive, il me dit, parce que Philippe Roth, qu'on imagine très prétentieux, très arrogant, justement, était d'une humilité et était toujours, quand on l'interviewait, était toujours en train de vous poser des questions à soi. C'était un vrai écrivain qui était intéressé par la vie de l'autre, presque au cas où il aurait pu s'en servir. C'était un peu ça. Et là, on parle de la chance. Némésis, c'est sur la chance ou la malchance qu'on a dans la vie. Il me dit, et vous, Nelly? Vous avez eu de la chance dans la vie. Et là, je fonds en larmes sur son canapé. Et un peu embêté, moi aussi, évidemment, il va immédiatement me chercher un verre d'eau, il attend que je sèche mes larmes et tout ça. Je pense avoir eu aussi de la chance dans la vie, mais là, j'allais pas très bien. Il faut pas rencontrer Philippe Roth quand on va pas très bien à l'époque. C'était vraiment, il vous cuisinait.
Comme il est mort, il n'y a plus de problème.
On ne pouvait pas cacher quoi que ce soit. Et à un moment donné, je pense que ça a établi quelque chose d'assez intime, où il m'a dit, écoute, j'arrête d'écrire, j'en peux plus, voilà, j'ai l'impression...
Il arrête pas d'écrire parce que tu pleurais.
Peut-être.
Non. J'ai eu peur qu'il m'appelle Gallimard en disant, vous m'envoyez vos dépressives et je n'ai plus les voir, je vais arrêter d'écrire.
Oui, parce qu'elle avait lu tous ses livres, donc elle était déprimée.
Vous ne verrez plus vos folles. Non, c'est pas ça. Mais je regrette, voilà, qu'il n'y ait pas aussi, voilà, des entretiens plus européens que juste la Suède. En tout cas. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la lettre à Wikipédia, que je n'avais pas lue, qui est extraordinaire et qui est complètement contemporaine.
Pourtant, elle n'était pas inédite. Enfin, je crois qu'elle...
Oui, elle n'était pas inédite.
Non. Mais elle est incroyable.
Ouais, elle est incroyable. Et surtout, je me disais, à l'époque, Proust écrivait contre Sainte-Beuve. Là, aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, un écrivain de la stature de Roth en est écrire contre Wikipédia et contre une espèce de système complètement de bureaucrate, de technocrate, complètement froid, qui ne veulent pas l'écouter parce qu'il écrit.
Absolument.
Parce qu'il lui dit.
Parce qu'on n'a pas le droit d'écrire soi-même sa notice. Wikipédia, ça doit être écrit par d'autres personnes que le sujet.
Mais attention, il le fait sérieusement, que les gens comprennent, c'est pas une plaisanterie.
Et c'est de la théorie littéraire. En fait, sa lettre, c'est de la théorie littéraire, c'est sur comment un écrivain travaille à partir de faits vrais, parce que par exemple, pour La Tâche, Wikipédia dit il s'est inspiré de, je sais plus le nom d'un critique littéraire américain, et lui dit non, pas du tout, en fait, je me suis inspiré d'un universitaire américain qui a eu exactement les problèmes que l'universitaire dans La Tâche. Et il raconte comment il change à un moment donné la réalité pour en faire de la fiction, comment il travaille. Donc là, c'est le laboratoire, c'est Lettre à Wikipédia, c'est le laboratoire d'un écrivain.
Jean-Claude.
Alors c'était Lettre à Wikipédia, moi j'ai eu la chance de l'avoir interprétée, mise en abîme par Ali Zenitzer, qui est venu sur scène lors d'un numéro de...
Alors toi, tu rencontres pas Philippe Roth, mais tu rencontres Ali Zenitzer, ce qui est bien aussi.
Je rencontre pas Ali Zenitzer, je suis dans le public, j'écoute Ali Zenitzer, qui met ça en abîme dans une performance qui s'appelle Live Magazine, qui est quelque chose qui revient régulièrement, où les gens disent une fois quelque chose, ils ne le rediront pas. Et elle est venue lire la lettre de Philippe Roth, et ça avait un effet sur le public, mais extrêmement rigolo. Mais en même temps, c'est quelque chose de profondément angoissant, c'est-à-dire que taper contre ce mur mou de Wikipédia dans lequel on ne peut pas entrer, on ne peut pas pénétrer, même si on s'appelle Philippe Roth et on dit « je suis Philippe Roth », ça avait un effet. Moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est plusieurs éléments, c'est épars, c'est ce que tu disais Frédéric, c'est un mélange de plein de choses, mais j'aime bien le début quand il dit qu'il a eu la trouvaille de considérer que la culpabilité était en ressort comique. C'est un truc qu'il a trouvé tout de suite. J'aime beaucoup l'éloge qu'il fait de son père, qui était un assureur et qui connaissait très 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 bien la ville, et il dit « je me suis juché sur ses épaules pour pouvoir ensuite écrire, comprendre, voir, penser ». J'aime beaucoup la rencontre avec Primo Levi, parce que d'abord on découvre un Primo Levi que moi je ne connaissais pas comme directeur d'usine chimique, enfin bon, qui était vraiment un scientifique, qui était rationnel, qui s'inspirait de son expérience d'industriel et de scientifique pour écrire, et puis surtout l'énigme Primo Levi qu'on lit dans cette rencontre, c'est-à-dire que quand il le quitte, il le trouve en pleine forme, il raconte surtout aussi qu'il est entouré de toute sa parentèle, comme si c'était comme s'il repoussait ce qui s'était passé pendant la Shoah, et bon, puis ses entretiens avec Milan Kundera, enfin bon, on pioche, je suis un peu d'accord avec Frédéric, ça s'adresse pas forcément à tout le monde, c'est vraiment les rotophiles, mais les rotophiles en feront leur miel. Ouais, c'est
bon, ça. Allez, pourquoi écrire ces Philip Roth, c'est en folio. Et on reste avec un américain encore, avec Chronique au pluriel d'un enfant du pays, un classique de James Baldwin qui connaît une seconde vie en France, chez Gallimard toujours, grâce à une nouvelle traduction qui est signée Marie Dariussec d'ailleurs, qui va sortir un roman dans quelques jours pendant la rentrée, qui s'appelle La mer à l'envers chez POL. Bref, ces chroniques écrites dans les années 40-50, donc celle du jeune Baldwin, je rappelle qu'il est né en 1924, qui se demande d'ailleurs ce que signifie être noir aux États-Unis, porte sur la politique, la religion, la presse, la littérature, le cinéma, et dénonce évidemment, page après page, une société américaine injuste et clivante, dont on peut quand même se demander si ça a totalement disparu. Il est fils d'un pasteur qui est un peu guetté, il faut dire, par la démence. Aîné d'une fratrie de 9 enfants, il commente les émeutes de 43 à Harlem. Il dénonce aussi depuis Atlanta le racisme et l'infantilisation de la communauté noire. Ou alors, il décrit la sidération des clients blancs, ça c'est une scène incroyable, lorsqu'il va s'asseoir dans des restaurants qui sont interdits aux noirs. Il relie aussi la case de l'oncle Tom. Et les derniers textes du livre évoquent la France des années 50, où, je le rappelle, ce jeune noir homosexuel s'est expatrié au début des années 50. Il est d'ailleurs mort en 1987, James Baldwin, à Saint-Paul-de-Vence. Jean-Claude.
Alors, ce qui est intéressant dans son séjour à Paris, ce qu'on ne savait pas, moi j'ignorais, c'est qu'il s'était retrouvé en prison à Fresnes.
Il était à Fresnes.
Pour avoir, non pas volé, mais récupéré le drap d'un de ses compatriotes qui était dans le même hôtel que lui, et la police parisienne s'est déplacée pour chercher ce noir, le coffret, et il a passé quelques jours en prison, et on a droit à 2-3 chapitres sur son passage à Fresnes, puis ensuite le procès, qui évidemment était tellement débile que le public rigolait de cette histoire, mais ça l'a marqué, et je trouve que ce texte est presque aussi, j'ai bien presque, hein, j'insiste bien sur le presque, aussi impressionnant que ce qu'il décrit de la condition des Noirs aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans la condition des Noirs aux États-Unis, c'est d'expliquer à quel point c'est un marqueur. La couleur de la peau est un marqueur aux États-Unis et évidemment on s'en débarrasse pas. Ce que j'aime aussi, c'est quand il explique la panique qui saisit à un moment les Américains quand ils comprennent que le sauvage qu'ils ont en face d'eux est capable de décrypter le civilisé en face d'eux. Et ça, ça leur fout la trouille. Et à partir de là, ils vont décider de le détruire, de l'écarter, de plus avoir affaire aux Noirs. Et ce qu'il explique très bien, c'est que la condition du Noir en Amérique est de subir. C'est ça son destin, c'est ça sa fatalité. Il explique aussi que la réussite de quelques Noirs, c'est un leurre, c'est même pas la peine de truc. Il en veut beaucoup aussi aux promesses des Blancs qui n'ont jamais été tenues. C'est un livre profond, précis et rageur. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps de la rage chez Baldwin. Et à l'époque, il est jeune. Hein. C'est des écrits où il a...
Colère et rage que traduit bien, je trouve, Marie Dariussec.
Oui. Et puis surtout, il explique et il montre très très bien comment l'inconscient collectif américain est soudé dans cette détestation et dans l'avilissement des Noirs. Et je trouve que c'est un livre important sur la tragique réalité du rêve américain. C'est une aliénation qui est liée aux origines pour les Noirs, et montre aussi comment la haine contre les Noirs, elle se retourne contre les Noirs. C'est-à-dire les Noirs prennent cette haine, la retournent contre eux. Enfin, il y a quelque chose d'assez tragique.
Vous n'avez pas été marqué à quel point quand même ces pages d'autrefois
peuvent être
lues en 2000.
C'est là où je voulais en venir. Tu posais la question au début. C'est extrêmement actuel, oui.
Ça ne parle pas seulement de l'Amérique, ça parle aussi de la France. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que il y a le même problème chez nous. Il faut arrêter de montrer du doigt l'Amérique parce qu'il y a le génocide indien, parce qu'il y a l'esclavage. Nous aussi, on a.
Bien sûr.
Et il le dit d'ailleurs. Il le dit. Le noir américain à Paris ressemble beaucoup à l'homme invisible. Mais moi, ce qui m'a passionné, en fait, et je connaissais pas, je dois avouer une lacune, j'avais jamais lu James Baldwin, donc je l'avoue publiquement, j'ai trouvé ça extraordinaire, sa liberté de penser, au point même de dire un peu ce que dit Bret Easton Ellis dans White.
Oui, je suis d'accord.
Ça me saoule, ça m'ennuie d'être
obligé d'assumer l'héritage des Noirs. Et par exemple, à un moment, il dit, ben, quelle est mon identité? L'Afrique? J'étais inapte à la jungle ou à la tribu. C'est quand même assez violent de dire ça. Je suis né à Harlem, je n'ai pas envie d'être obligé d'écrire sur ma couleur de peu. Et alors, imaginez, en plus, quand on
si
est...
Si tu ajoutes l'homosexualité en plus...
Ah ben, il se prenait des chaises. Il allait dans des bars, on lui jetait des chaises.
Absolument.
Parce que noir et gay, alors là, c'est pas possible. Donc c'est un livre ultra violent, extrêmement libre, et j'ai découvert cet écrivain tardivement.
Nelly.
Oui, alors en effet, il pourrait être... son discours est malheureusement toujours d'actualité, est toujours très contemporain. C'est vrai que par exemple, Pouzin Rock, on a fait un numéro spécial avec Assa Traoré, dont le frère Adama est mort sous les coups de la police. Donc voilà, en effet, ça se répète aussi chez nous. Mais moi, je ne pense pas que ça pourrait être écrit exactement de la même façon aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui il y aurait cette même liberté? Parce que moi aussi,
ce que j'ai lu, elle est quand même assez choquante.
Ce qui m'a étonné, c'est quand il dit aussi, à la suite de ce que vient de citer Frédéric, il dit aussi, et je méprisais aussi mon propre peuple de ne pas avoir pu engendrer des Rembrandt,
Shakespeare.
Et tu crois qu'il pourrait pas l'écrire aujourd'hui, ça?
Non, je pense qu'aujourd'hui, on peut être dans une crispation identitaire qui fait que il serait vu probablement comme un traître à une cause. Enfin, ce que je peux comprendre aussi, puisqu'à un moment donné, on a besoin d'un discours militant émanant des minorités pour imposer une autre représentation qui est salutaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette liberté-là, en fait, ce dont il parle, James Baldwin, et ce à quoi on peut tous identifier à un moment donné de notre vie, c'est cet entre-deux. C'est-à-dire être dans une société à laquelle on ne sent pas qu'on appartient et en même temps on n'a pas de passé. C'est-à-dire que son passé, il est le passé africain, il est complètement annihilé. Il est obligé quasiment d'être amnésique de ça parce qu'il descend des esclaves, en fait. Donc à partir de là, c'est quoi être un individu dans une terre qui n'est pas la sienne et qui en même temps... il n'y a pas d'autre terre pour lui. C'est ce qu'il dit.
Né à Harlem.
Je m'identifie pas à une tribu, je m'identifie pas à l'Afrique, je m'identifie pas à la jungle. Bon, c'est un peu brut de décoffrage, mais enfin, on voit ce qu'il veut dire. Donc, je trouve cette espèce d'entre-deux constamment, il y a un chapitre, j'ai oublié le titre, faudrait absolument qu'on le retrouve, où il raconte comment il a failli être passé à tabac, et c'est un ami qui l'a empêché, qui l'a protégé, parce qu'à un moment donné, les cafés et les restaurants sont interdits aux Noirs.
C'est ce que je racontais dans
quand il va, résumé, absolument, et ce truc où il est complètement, halluciné, fou de haine, de soi, et il va provoquer dans un café jusqu'à être quasiment risqué la mise à mort par les Blancs.
C'est un livre qu'il n'a pas envie de faire pitié.
Allez, Olivia,
il n'a pas envie de faire pitié.
Extraordinaire qu'il faut absolument lire.
Parce que ce qu'il faut dire peut-être, c'est que moi j'ai lu déjà des romans de Baldwin qui ont été publiés dans la Cosmopolite, que j'ai adoré. Je trouve que les premiers textes du livre sont un peu pour les Baldwinophiles, comme tu disais pour Roth au début. Ce sont des textes assez pointus qui expliquent pourquoi La case de l'oncle Tom est un texte raciste finalement, pourquoi Carmen Jones est un film raciste. Moi j'ai eu un peu de mal avec le début, et après il y a la nouvelle dont tu parles, Jérôme, qui est extraordinaire, celle qui donne son titre à l'ouvrage, puisque ça commence par l'enterrement, par la mort de son père, qui meurt d'ailleurs le jour où sa mère donne naissance à son 9e enfant, et le jour des émeutes de Harlem. Et effectivement, ce qui est fou,
de la mort
la concordance des deux,
et de la révolte de Harlem, c'est sidérant.
Où il explique que le cercueil est porté au milieu des bris de verre, et où après, il explique cette chose folle que tu disais, qu'il connaissait les lois de la ségrégation, et que par une espèce de volonté d'expérimenter ce que ça voulait dire dans sa chair...
Et de provocation,
il passe des soirs et des soirs à aller dans les cafés, et on lui dit « on ne sert pas les Noirs », et un jour il devient fou, et il se rend compte à la fois qu'il est l'objet de la haine et qu'il aurait pu tuer quelqu'un, mais en même temps que lui-même pourrait tuer quelqu'un, et que finalement ce père qu'il détestait pour son amertume, il est héritier de la même amertume. Je trouve que c'est d'acuité et de délicatesse de sentiment absolument extraordinaire.
Si la case de l'oncle Tom, il note « Le noir en Amérique n'a d'autre réalité que dans la noirceur de nos esprits. » Chronique d'un enfant du pays, c'est James Baldwin et c'est chez Gallimard. Et maintenant, pour votre plus grand bonheur, enfin je parle de Frédéric, le best-seller de Erika Leonard James, à qui on doit les 5 volumes de 50 nuances de Grey. Je dis ça parce que j'ai vu que tu avais consacré une chronique du Figaro Magazine à ce livre, Frédéric.
Je ne parle que des livres très importants.
150 millions d'exemplaires vendus, dont 8 en France. 8 millions de 50 nuances de Grey.
Je crois que c'était juste 8.
Et qui publie une nouvelle arlequinade de 400 pages chez Lattès. Monsieur, traduit par Denise Beaulieu, Dominique Defer, Carole Delporte. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils se sont mis à trois
pour traduire plus vite.
Je crois que c'est ça.
Oui, souvent ils font ça.
Il y avait un embargo
et ils sont enfermés pour pas laisser. Ouais.
Monsieur, c'est Maxime Trévelane, donc un héritier richissime qui fait aussi. Non mais tu rigoles, mais moi j'ai découvert, je n'avais pas lu 50 nuances de Grey, qui fait office comme un peu Frédéric de mannequin, DJ, photographe, compositeur et surtout dragueur. Maxime, contrairement à toi Frédéric, possède un titre de noblesse puisqu'il est comte, domaine dans les Cornouailles, c'est pas ton cas.
Il est à la Chambre des Lords.
Une Land Rover, une Jaguar, une bague Cartier évaluée à 45 000 livres.
Oui. Et un piano Steinway.
Voilà, là je cite, la course, la baise et l'escrime, tout ça m'aide à garder la forme, donc dit Maxime. Ah oui, j'oubliais, là, et c'est quand même l'essentiel, il a une femme de ménage albanaise, Alessia, une sorte de cendrillon moderne, qui n'a jamais vu de carte de crédit ni de smartphone, mais qui est justement très douée en piano, même on peut dire virtuose. Bref, ils se plaisent, ils font dans la sexualité ménagère. Non mais je cite, hein, quand ses longs doigts fins rassemblent les miettes sur les coussins, un frisson me parcourt. Et je vous dis pas quand elle passe la cire sur le piano. Alors là, c'est l'extase. Bref, alors il faut expliquer que ce livre savant alterne la première personne, donc de Ken, et la troisième de Barbie. Hein. C'est un jeu comme ça de l'un et l'autre. Bref, ce que l'éditeur appelle un thriller érotique haletant déroule, comme l'a écrit Frédéric Becbédé dans le Figaro Magazine, sa mécanique prévisible, le playboy coquet devient un toutou domestique, tandis que sa timide boniche s'épanouit sexuellement. Je vais commencer par demander avant de Frédéric à Olivia ce qu'elle en pense.
T'es misogyne en fait.
Non, c'est le livre qu'il est. C'est pas moi.
Je crois que c'est le livre le plus con de toute l'histoire du Masque et la Plume.
Oh, on a fait pas mal.
Ah non. Alors là, je crois qu'on n'a jamais atteint parce que c'est à la fois extrêmement cul.
C'est le sommet pour toi.
Et extrêmement cucu. Oui. C'est une sorte de mélange de vulgarité d'un mec en rut avec des femelles en chaleur, je crois, toute la première partie, avec une histoire totalement improbable du mec qui tout d'un coup voit une fille qui a une blouse en nylon bleu immonde, dit-il, et il dit « Est-ce que c'est la Vierge Marie ?» Non mais moi, là, je dois dire, j'ai éclaté de rire. Après, j'ai éclaté de rire beaucoup parce qu'il y a un truc impossible, c'est qu'il dit qu'elle mesure 1m50 mais qu'elle a des très longues jambes. Alors moi, je voyais...
Bah, c'est impossible, ça.
Bah, elle a pas de tronc, alors. Elle a une tête posée sur les jambes.
C'est possible.
Excuse-moi.
C'est peut-être très,
moi,
c'est peut-être
je trouvais
attirant.
Que c'était impossible. Le seul truc qui m'a vraiment amusé, c'est que MeToo est passé par là.
Ah, ben oui.
Parce que il y a un truc, le seul truc vraiment, peut-être un tout petit peu intéressant de ce livre, vraiment, mais grotesque, au début, avant d'avoir rencontré la femme de ménage, Cendrillon, avec ses grandes jambes, il couche avec plein de filles et, à un moment, il couche avec une fille qui veut l'attacher. Donc, il l'attache, mais il lui dit « Donne-moi un mot d'alerte au cas où, en plein milieu de l'action, elle voudrait s'arrêter. » Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Donc, il lui dit « Donne-moi un mot de passe. » Elle lui dit « Chelsea. » Il dit « Très bon mot de passe. » Alors là, pourquoi Chelsea est un bon mot de passe, je n'en sais rien. Mais je me suis dit qu'elle prenait des précautions.
Des gants,
si je puis dire.
Non, il y avait déjà... Ça a donné des idées ?
Dans Fifty Shades of Grey, il y avait déjà un contrat.
Tu avais lu les
contrats de soumission.
Non, mais Fifty Shades of Grey. Moi, je l'avais lu.
Mais quel Grey entre nous.
Tu avais lu Grey.
Moi, je l'avais lu pour nous. Et il y avait des trouvailles.
Tu l'avais inscrit au masque.
Ouais, tu l'avais inscrit au masque. Et il y a un
truc. Étais pas.
Non mais. Il y a un truc dont je me souviens qui était génial. Il y avait une formule. Mais je crois que Denise Beaulieu, qui est une des traductrices, elle est assez marrante. Il avait un magnifique brushing post-coïtal. Et moi, depuis.
Ça, je m'en souviens maintenant.
Je cherche.
Oui, le brushing post-coïtal.
Alors là, il n'y a plus de brushing post-coïtal. Ils ont juste les.
C'est dans les annales du masque, ça.
Les cheveux en cascade. Alors, je dois reconnaître que j'ai été jusqu'à la page 225. Je jouis avec une puissance inouïe. Et là, je me suis arrêtée.
Tu l'as lu intégralement, Frédéric ?
Moi, je trouve qu'il faut quand même, comment dire, exprimer notre gratitude à E.L. James pour avoir pris la défense de la soumission féminine après MeToo, enfin, en tout cas, dans 50 nuances degrés. Je vais encore avoir beaucoup de courriers après cette phrase.
Mais tu n'as pas répondu à ma question. Tu as lu intégralement celui-là ou pas ? Avant de rédiger ta chronique.
Je l'ai lu, oui, je l'ai lu intégralement, bien sûr. C'est prévisible parce que c'est Cendrillon, quoi. Donc, le prince charmant est la.
Oui, c'est ce qu'elle dit partout.
Femme de chambre.
Elle a voulu faire une Cendrillon moderne, oui.
Elle a un remake de Cendrillon, avec quand même, à la place du carrosse qui se transforme en citrouille, ce piano, Steinway, qui est l'équivalent aujourd'hui de la Lamborghini dans les années 80, quoi. C'est l'aspirateur à gonzesse, quoi. Le mec, il a un piano. Il y avait déjà un piano dans 50 nuances degrés. Je suis en train de faire une exégèse de E.L. James.
Absolument, tu es un spécialiste.
Il y avait déjà un piano, en fait.
Le
piano est un truc qui excite les femmes, selon E.L. James. Et donc, non, en fait, la réalité, c'est qu'on prend 50 nuances degrés, on enlève les martinets, et qu'est-ce qui reste ? Rien, en fait.
Il reste ce livre-là.
Littéralement rien. C'est comme tu l'as dit, un harlequin, quoi. C'est insipide du début à la fin.
Mais harlequin très vulgaire. Oui, parce qu'en plus, avec un mec très con.
Il y a des insultant pour les femmes. Alors, pour le coup, insultant.
Non, insultant. Mais insultant aussi pour les hommes. Parce qu'il est tellement con, excuse-moi, le lord, qu'un jour, il a sa femme de ménage qu'il trouve magnifique, et il voit des traces d'eau dans l'appartement. Il dit, est-il possible qu'elle soit venue pieds nus? Non, mais écoutez. Il pense qu'une femme de ménage se déplace pieds nus. Non, mais c'est pas possible.
Mais je sais pas s'il marche. Est-ce que ça se vend?
Très, très bien.
C'est incroyable.
Malheureusement, c'est la lettre de l'été.
C'est pour le titre aussi. Le titre est quand même extraordinaire.
Quoi, monsieur, tu crois que ça joue,
ça? Monsieur, c'est très mystérieux. Non, je rigole. Alors, j'ai jamais lu 50 Shades of Grey.
T'as vu les films?
J'ai pas vu les films non plus. Non, je sais pas, je devais lire Shakespeare. C'est chiant, ma vie, hein.
Oh, la crâne.
T'étais chez Philippe Roth.
T'étais chez Philippe Roth.
En train de chialer.
Je chialais chez Philippe Roth.
T'étais en larmes chez Roth.
Parce que je n'avais pas le temps de voir 50 Shades of Grey, en fait. Non, mais c'est un porno, en fait. Ouais, c'est quand même génial qu'on nous fasse passer des livres pour des romans.
C'est un peu là, quand même. Non
enfin,
c'est un Marc Dorcel, la femme de chambre, qui se tape le riche bourgeois.
Mais tout est cul.
Mais c'est vraiment, c'est prostitutionnel, c'est ça que je veux dire, ce qui est effarant, quand même, c'est que beaucoup de femmes sont des lectrices qui achètent ça.
L'image de la femme, qui est quand même, encore une fois, c'est très, je me rappelle, c'est l'Harlequin, je disais, quand j'avais 11 ans, donc ça nous remonte il y a très très loin, où je me rappelle, quoi qu'il fasse, ils ne couchaient pas ensemble parce que la fille devait arriver vierge au mariage, quoi qu'il en soit. Donc là, elle arrive vierge, quand même, à 25 ans ou 24 ans, enfin, je sais pas, elle est encore vierge, elle est passée par
les mains
d'Albanais,
attention à ce que vous,
épouvantable, une sorte de traite des blanches.
Attention à ce que vous êtes en train de dire.
Non, mais on perd de vue l'intrigue. Oui. Au bout d'un moment, il n'y a que des scènes de cul. Et c'est vrai qu'on on va, par professionnalisme pour le masque, jusqu'à la page où, enfin, ils vont faire l'amour. Enfin, si on peut appeler ça faire l'amour. Et là, moi, je me suis arrêtée au mot « j'ai la queue en feu ». Je me suis dit « non, mais c'est pas possible ».
Ça sera le mot de ce soir.
C'est pas possible de voilà.
J'ai la queue en feu.
J'ai la queue en feu. Et je l'ai surnommée « queue en feu ».
Elle n'arrête pas de se mordiller la bouche. À la fin, elle n'a plus de bouche tellement. Elle a passé le livre entier à se mordiller la bouche.
Ouais, mais déjà, l'actrice le fait dans les films.
Elle dit zot tout le temps. Zot, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est de l'albanais.
Non, mais c'est-à-dire qu'elle a un orgasme. Elle dit zot. Au début, je pensais que ça voulait dire zut, parce qu'elle dit j'ai fait tomber mon balai, zot. Je n'ai pas de parapluie, je n'ai pas d'argent pour m'acheter un parapluie. Zot. Non, mais... mon monsieur, parce qu'il s'appelle monsieur, parce que le monsieur, c'est qu'il est le maître qui l'emploie. Donc, oh, monsieur est couché nu, mon Dieu, je vais le réveiller. Zot, zot, il est là. Et quand elle jouit, elle dit zot. Bon. Là, je me suis dit, mais que veut dire zot?
Zot, Jean-Claude, qu'est-ce que tu en penses?
Je jouis, c'est quand même le but ultime du sexe.
Tu dis zut, toi, à ce moment-là?
Non, parce que j'attends l'orgasme. Comment je suis contente qu'il arrive?
Jean-Claude.
Chouette.
Allez, il faut qu'on ait un peu de temps pour
zot,
le facteur.
Zot, alors, hein. C'est le roman de l'Homo Erectus. C'est-à-dire, il faut pas, parce qu'il y a trois personnages. Il y a monsieur, il y a la future madame, et puis il y a l'organe du monsieur, qui est quand même le troisième personnage.
Qui
est en feu à certains moments,
est-ce que c'est le zot?
Qui vit sa vie autonome, il occupe beaucoup, beaucoup de place. Non, Olivia m'a enlevé le mot, parce que plus je tournais autour de ce livre, le seul mot qui me venait, mais c'est con, mais que c'est con, quoi, vraiment. Je veux dire que s'il y avait un maître étalon.
Oh, c'est le cas de le dire.
C'est préparé, ça, ou pas?
Non, non, non. S'il y avait un maître étalon de la connerie, il faudrait l'exposer au musée de Sèvres, et c'est ce livre-là. En plus, c'est inepte, c'est vulgaire, mais c'est con, quoi. Voilà, c'est toi. Mais c'est répugnant sur le fond. C'est-à-dire que la vision des hommes, la vision des femmes, la vision de l'étranger, la vision de...
De l'Albanie.
C'est répugnant. Ce livre est absolument répugnant.
Des femmes de ménage, de tout.
Il y a
des
migrants. Il n'y a pas un répit, il n'y a pas un éclair d'intelligence. Enfin, c'est la vraie connerie, l'authentique, la grande. Alors vous, je sais, vous avez expliqué où est-ce que vous êtes arrêté. Moi, je peux vous dire qu'il a filé direct à la poubelle, quoi. Je veux dire, franchement, il n'y a pas d'autre endroit où mettre ce livre que le foutre à la poubelle. Non, une chose quand même qui m'inquiète beaucoup. Si ce livre a, le précédent a eu 150 millions de lecteurs, si ce livre marche à ce point-là, c'est très inquiétant sur l'état aujourd'hui de l'imaginaire, de nos contemporains, la pauvreté des fantasmes. Si les gens achètent en masse ce livre, je rigole pas là, je trouve ça très inquiétant sur les contemporains.
Je vais te dire, je me suis renseigné sur les tirages avant l'émission et que malheureusement, c'est un
c'est inquiétant.
Succès.
Voilà. Très inquiétant.
Et je ne vous dis pas ce que les chaleurs de l'été vont ajouter.
mais c'est inquiétant non seulement pour ce qu'on a dit, mais sur le regard. Sur le regard que ça pose.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission en détail, donc c'est bien Monsieur, et c'est chez Jean-Claude Lattès. Allez, la tournée continue avec Robert Cottard qui publie les calendriers aux éditions de L'Olivier. On connaissait le facteur Cheval, voici le facteur Cottard, puisque pendant 30 ans, dans le pays de Caux, c'est-à-dire chez Flaubert et Maupassant, entre Le Havre et Fécamp, Bob le facteur a distribué le courrier et... J'ai découvert dans le livre qu'il existait un agenda du betteravier moderne. C'est formidable, non? Ça, vous ne savez pas ce que c'est des betteraves, vous. Donc, il distribue ça dans les fermes où il est accueilli généralement au calvat, parfois au cidre brut et même parfois au rosé. Bref, le fil conducteur de ce livre, c'est la tournée hivernale des calendriers dont on connaît le principe. Le postier propose des éphémérides, dont les photos, en général des portées de chats, des vues aériennes de Mont-Saint-Michel ou des couchers de soleil. Sur la plage, son prétexte à de longs bavardages. Et là, pour Cottard, c'est l'occasion de rassembler des portraits. Donc, il a vécu des scénettes, des dialogues en couchois, attention, qu'il a glané au fil des ans sur des chemins où s'aventurait sa 4L jaune. Parce que lui, c'est pas une Lamborghini, mais c'est une 4L jaune. Donc, il y a notamment un châtelain qui a placé une croix de Lorraine et une franciste sur les deux piliers de son portail. Il y a les deux épandeurs de Purin qui vident les faux sceptiques, qui sont surnommés les frères Pécu. Il y a la fermière dont la cour est gardée par une truie au caractère ombrageux, ou encore le fils du boulanger qui met Madame Fernande sans dessus-dessous dans un bosquet. Voilà, en tout cas, il s'appelle aussi, on le surnomme le Mermoz du Pays de Caux, et je peux vous dire que il écoute souvent le Masque et la Plume. Jean-Claude.
Ah, mais qu'est-ce que c'est bien. Mais au début, je croyais que c'était pas un vrai facteur. Enfin, je pensais que c'était un auteur de fiction. Et en fait, c'est vraiment sa vie.
Ah, c'est un vrai facteur.
Mais je savais pas. Je croyais même que son village était un village de fiction. Il existe. Enfin, tout est vrai. Et c'est formidable parce qu'il part de ce rituel qui est quand même un rituel très, qui dure, quoi. Qui est la tournée du calendrier. Et alors, ce qui est formidable, c'est les longues hésitations devant, le choix que tu viens de décrire. T'avais oublié le battage à l'ancienne aussi.
Ah, mais il y en a plein, hein.
Ouais, ouais. Et la couvée de chiots, enfin, tout ça. Et la longue hésitation des gens devant ça. Ensuite, il est mis très en évidence. Et puis, c'est une série de scénettes comme ça. Il y a un côté La Bruyère chez lui. C'est-à-dire, il saisit les gens dans leur jus, quoi. Et il campe des caractères, des destins très singuliers. Et c'est des gens vraiment ancrés dans leur terre. Vraiment. Et il y a comme ça une liberté de ton chez ce facteur. Enfin, il y a quelque chose c'est une magnifique tournée. C'est un herbier de scénettes, de secrets, de confidences. C'est aussi des leçons de vie d'un monde qui est en disparition. Qui aujourd'hui, après Robert Cottard, peut écrire « Il n'y a vraiment qu'un facteur pour bien savourer un œuf sur le plat par un matin d'hiver glacial dans la cuisine briquée d'une fermette ».
C'est pas vraiment ton monde, Frédéric, ça. Hein.
Récemment, un peu quand même. Hein. J'ai déménagé dans la France profonde.
Oh, 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 oh. Mais, oh là.
J'ai beaucoup aimé, et j'en déduis que je vieillis, parce que c'est quand même c'est une série de portraits truculents, savoureux, et c'est des adjectifs que autrefois je bannissais de mon vocabulaire. C'est par moments, on dirait, du Frédéric Dard. Il y a ce côté gouléant, c'est vraiment, c'est gourmand, c'est généreux, c'est observé, précis. Bon, voilà, mais c'est vrai que c'est un peu répétitif. C'est quand même un peu le seul défaut qu'on pourrait trouver, c'est que c'est un peu toujours le même portrait. Il arrive chez des gens. Alors, il y en a qui sont mieux que d'autres. Moi, j'ai beaucoup aimé le portrait du chien qui est surnommé Le Pen parce qu'il est borgne, qui est insupportable. Et d'ailleurs, sa maîtresse finit par mourir. C'est deux pages, mais c'est vraiment très, très drôle. C'est cruel, c'est aussi un portrait de la France, quoi, de
d'une France figée
aujourd'hui. Oui, et puis c'est intéressant parce que finalement, qui aujourd'hui
ça reste très normand, si j'ose dire, hein, quand même. Hein.
Oui, mais
je parlais de beaucoup de petits détails, oui, oui. Notamment les boissons alcoolisées.
Oui, ça me picole beaucoup. Non, mais c'est la vérité.
C'est la vérité. Hein.
Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, je me suis dit. Je ferai attention maintenant quand le facteur sonnera pour me vendre ses calendriers, parce que je me dirais s'il va peut-être écrire un bouquin.
Et la petite histoire, c'est une romancière que nous connaissons tous des éditions de l'Olivier, qui a indiqué à Olivier Cohen, donc le directeur des éditions de l'Olivier, qui habite le même village que celui où il a déposé le courrier pendant 30 ans, qui a conseillé à Olivier Cohen de publier pour la première fois chez un grand éditeur ce texte. Olivia ?
Oh bah j'ai beaucoup aimé. Moi, ça m'a fait penser à des dessins de Sempé. En fait, par exemple, le garçon qui sort du Pacifique, la boîte de nuit, qui rate le virage et qui rentre dans la vitrine de la boulangerie, il est en train de téléphoner et il ne raccroche pas et il dit « je te rapporterai des croissants ». Ça m'a bien plu.
C'est entre Sempé et Vialat, alors.
Excusez-moi, c'est un humour plus noir, mais le grand-père qui a perdu ses deux jambes de la gangrène et qui se fait enterrer dans un cercueil tout petit, tout raccourci. Ma préférée, c'est la couturière, hein. La petite dame de barbe bleue qui a perdu la mémoire, hein. Et donc elle se trompe, elle est dans une petite camionnette et elle vient chez les gens, et du coup à la dame très grosse, elle lui apporte un tailleur tout petit et donc elle perd tous ses clients, et un jour le facteur lui dit « mais faites comme moi, prenez un petit carnet et vous notez tout sur le petit carnet ». La dame est enchantée, elle note tout sur le carnet, et un jour elle perd son petit carnet dans la cour, et il y a une dame qui attrape le petit carnet, et qu'est-ce qu'elle lit pour se décrire? La dame qui a trouvé le petit carnet, au lieu de voir son nom, elle voit « grosse bonne femme aux dents pourries ». Et là, elle se dit « waouh ». Et après, elle voit que ainsi tous les habitants sont ainsi décrits, « petite vieille qui pue »,« grande pimbèche prête ses sous », et surtout Muriel. Et alors là, ça enchante la dame qui a trouvé le carnet. La reine des salopes avec des yeux à faire péter les boutons de braguette. et la dernière nouvelle, qui est comme une nouvelle avec le châtelain, est juste géniale.
Et puis il y a aussi un portrait de son propre père qui est assez émouvant.
Et puis un portrait de la vie de facteur, quand il va dans les tours, donner les mandats.
Moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est qu'on est dans un monde où les gens ne se parlent plus.
Oui.
Où il n'y a plus ce qu'on appelle in real life.
Le lien social établi par le
facteur. Et c'est le seul qui va sonner chez les gens.
Surtout à la campagne. Hein. Oui. Surtout à la campagne.
Ils se rendent des services gratuitement.
Nelly.
Oui, moi, c'est ce qui m'a le plus plu. En fait, c'est que ce soit sa vie. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment très inspiré de sa vie. Mmh. Que ce soit une vie de facteur, qui passe par cette histoire de calendrier. Je trouve ça très kitsch en même temps.
Il a commencé au Havre, où il était facteur sur les paquebots, notamment le France. Il a porté le courrier aux croisiéristes de ces grands paquebots
qui étaient
stationnés au Havre.
Mais en même temps, comme disait Jean-Claude, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu figé, voilà, dans en tout cas la France qu'il décrit ou la campagne qu'il décrit. Dans sa façon d'écrire, je sais que c'est pas du tout, enfin, la Normandie n'est pas du tout dans le sud de la France. Moi, ça m'a rappelé Pagnol.
Tu sais ça.
Il y a un côté Pagnol, c'est juste.
Il y a un côté Pagnol. Et je me disais, au fond, on a l'impression que ça n'a pas changé. En tout cas, la vie comme ça de petite ville n'a pas changé. Et je me demandais, est-ce que c'est vrai que ça n'a pas changé? Car comme vous le savez, je vais très peu à la campagne. Malheureusement, je le regrette. Ou est-ce que c'est lui qui se complète dans cette esthétique?
Tu te poses des questions.
Moi, je me questionne. Oui. Ouais. C'est un petit peu moins comme ça.
Mais tu sais qu'il y a beaucoup de verre en plus à la campagne. C'est incroyable d'ailleurs.
Tu veux dire des arbres?
Les calendriers aux éditions de l'Olivier. C'est le livre du facteur Robert Cotarlet. Rapidement, parce que le temps presse. On termine avec Bain de mer, Bain de rêve et autres voyages, évidemment que je devais inscrire pour une émission d'été. C'est un volume de 1000 pages de la collection Bouquins qui rassemble tous les récits de voyage de Paul Morand, du sommet des Andes au Banil, de l'île de Pâques à Majorque. C'est donc tous les voyages de l'homme pressé, voyage à l'ancienne, hein, puisque quand on lit de près, il voyage en hydravion, en train express, en paquebot poste, à cheval, au volant d'un de ses bolides. Alors là, c'est à faire rêver Bec Bédé, Bugatti, Porsche. Je connaissais pas la Poire 20 chevaux et la 6 cylindres Marmont. Plus sérieusement, il décrit Palmyre et Bassorah quand elles étaient debout. Il se demande si Pékin est une ville ornée ou une forêt décimée. Vancouver, eh ben, il trouve que c'est un air de province anglaise où le représentant du roi habite un Parthénon. Manille, c'est la trinité américaine du gratte-ciel, de la dactylographie et de l'escrime soda. À Djibouti, Il passe la nuit dans la case d'une négresse, je le cite, longue de 2,20 m, je sais pas comment c'est possible, qu'il visite de la tête aux pieds. En Thaïlande, il aime que le roi confère un titre de noblesse à l'éléphant blanc. Et il connaît beaucoup mieux les cocktails que Bec Bédé, puisqu'il boit un Hula Hula à Hawaï, un chocolat cocktail au Brésil, ça, un boomerang en Afrique du Sud.
La liste des cocktails du Shanghai Club. Ça, il y a une liste d'une page avec tous les cocktails du Shanghai Club.
Et un mystérieux Kiss Me Quick. Alors, à part tout ça, évidemment, il est indécrottablement réactionnaire, puisque de page en page, il exalte l'âme coloniale française, ce navire aux voiles gonflées du vent de la philosophie. Et il va même, quand il va faire le pèlerinage à Beyrouth sur les traces de Wagner, louer la race aryenne. Nelly.
Oui, là, il a vraiment tout pour plaire. Bon, ça, on le savait déjà un peu. Non, moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est quand même la vacuité de ces exercices, c'est-à-dire avoir traversé quasiment le monde entier, écrire, parce qu'il était complètement graphomane pour écrire tout ça, pour écrire tous ses romans, etc., et n'avoir à ce point rien à dire de ce qu'il voit.
Tu ne trouves pas ça bien écrit ?
Non, je ne trouve pas ça bien écrit. Je trouve ça vieillot, je trouve ça poussiéreux. À un moment, je sautais des pages, j'en suis arrivée à Paris, parce que je voulais voir ce qu'il disait de Paris. Alors, c'est pas mal, cet exercice de mêler. C'est un peu la psychogéographie de Debord, et en même temps, enfin, des situationnistes, et puis avant l'heure. Mais en même temps, sans avoir vraiment de quoi que ce soit de personnel à dire, il nous raconte l'histoire, on a l'impression que c'est les rois maudits, enfin c'est un peu grotte. C'est très poussiéreux, je trouve, tout ça. C'est très Pépé avec sa pipe, qui parle à ses petits-enfants de la France, de comment c'était, de Paris. Ensuite, il parle de... Il y a des passages sur la race juive, bon, qui sont pas non plus, mais rien que de... Enfin, qui sont désagréables. Je trouve tout ça, mais d'un autre temps, il n'est pas au-delà de son temps, en fait, Morin. Alors, je pense que les Baldwin est au-delà de son temps, je pense que Roth est au-delà de son temps. Enfin, là, je pense qu'on parle d'écrivains. Il y a un passage où est-ce que c'est... Il parle d'un port en Grèce ou dans le sud de la France où il y a deux pages sur les bateaux qui se garent dans le port, mais aussi les anchois, mais aussi les poulpes, mais aussi les truites. Et là, je me suis dit, mais il va nous citer toute la faune de la...
Bon, il n'a rien à dire. Je sens que tu n'as pas aimé plus rapidement, Frédéric. Non,
franchement, ça m'ennuie d'avoir à le dire, mais Nelly n'a pas complètement tort.
Tu préfères les romans.
Sans doute la première fois de toute ta vie. C'est vrai que ça a vieilli. Et si on aime Tendre Stock, qui est un sommet de style...
L'homme pressé.
Et évidemment, le roman de fiction, là, ce sont des récits de voyage. Et évidemment, c'est normal, c'est un peu démodé, c'est daté. Ça date des débuts de l'avant-mondialisation, c'est-à-dire de l'invention, oui, de tous ces véhicules
rapides. Avant les jets et
les trains.
Le tourisme de masse.
Oui, mais juste avant, juste entre Pierre Loti, Valérie Larbeau et aujourd'hui le guide du routard. Donc Morand, il est à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 30. Hein, quand il parle de la Chine, oui, c'est le Lotus bleu. Et puis quand il... Tout ça, ça n'a qu'un intérêt, finalement, de vérifier si on connaît les endroits, à quel point ça a changé, à quel point c'est plus comme ça, quelquefois des choses qui ont pas changé non plus. Mais c'est vrai que la préface est excellente de Nicolas Desiendorf. Il dit des choses très justes et assez bien écrites. Mais il est très très enthousiaste et après, on peut être un petit peu déçu.
C'est un peu trop.
C'est inégal.
Trop amoureux de.
Alors désolé là, les amis, mais moi, quel festival, quel bonheur, quel œil, quoi, quel voyageur. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Chaque page est crépitante. Enfin, moi, j'aimerais voyager comme il voyage. Et puis c'est un orfèvre de la phrase, du rythme, du tempo. Oui, c'est daté. Oui, c'est là aussi, c'est figé. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, il consigne, il exalte quelque chose qui va disparaître. Et qu'il voit disparaître et dont il essaie d'être un des conservateurs les plus inspirés, les plus stylisés. C'est un styliste de très haute volée, il faut quand même bien le dire. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que il y a derrière ce don d'écriture un art de vivre. Et en effet, il est désuet, il est passé, mais franchement, et je suis d'accord avec toi sur la préface de Nicolas Desiendorf, est vraiment bien, quoi. Non, franchement, c'est vraiment bien, et c'est une façon de voyager qui a disparu.
T'as pas trouvé que c'était une vision franchouillarde et snob?
Non, franchouillarde, c'est une vision de l'époque.
Il est de son. Jean-Claude, que ton ami Philippe Solers tient que c'est le plus grand style de la littérature française.
Alors, je retire tout ce que je viens de dire. Donc, le livre de Morand n'est vraiment pas bien. Il ne faut pas le lire.
Allez, Olivia.
Moi, j'ai eu l'impression que c'était, vous savez, les livres qui sont offerts aux vieux lecteurs du Figaro avec le Figaro pendant l'été. Non, je sais pas, je suis pas cœur de cible. Non, j'ai trouvé que c'était très ennuyeux. Moi, j'ai été directement au bain de mer hein, parce que ça m'amusait.
Il adore la Méditerranée.
Non, il n'aime pas la Méditerranée. Il dit la Méditerranée est une piscine, non une mer. C'est du bleu lessive, gras et sans vitamines. Alors déjà, il y a un gros différent parce que moi, je n'aime que la Méditerranée. J'ai trouvé que c'était extraordinairement ennuyeux. Une sorte d'inventaire de toutes les nages possibles. Non, et le style, oui, il y a des phrases, mais le style est intéressant si c'est une vision du monde.
Mais c'est une vision du monde.
Ah ben écoute,
mais oui, moi, c'est une vision du
alors
monde.
Que j'avais évidemment, adoré que Lewis et Irène, où ils se rencontrent en nageant. Et d'ailleurs, elle nage plus vite que lui, ce qui est un de leurs différents.
Oui. Non, mais attends, personne n'a dit que Paul Morand était un mauvais écrivain. C'est un immense écrivain.
Si, là, vous l'avez dit à peu près. Si, si.
Non, mais ce sont des récits de voyage
là,
souvent publiés dans des journaux.
Ah, vous l'avez laissé penser.
Hein. Non, pas du tout. L'essentiel, ce sont des livres.
Oui, il y a Venise.
Qui ont été rassemblés. Il y a Venise, ou alors un petit livre qu'il avait fait sur comment descendre en voiture de Paris jusqu'à Nice.
Oui, ça, je l'ai lu aussi. Et j'ai trouvé ça très ennuyeux.
Bain de mer, bain de rêve et autres voyages, c'est Paul Morand. Et c'est en bouquin chez Lafon. Allez, un conseil pour terminer cette émission. Eh ben, on va commencer avec Olivia.
Ah ben, j'ai choisi une anthologie, puisqu'on avait plein d'anthologies. C'est le Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel d'Olivier Weber, chez Plon, qui est vraiment une sorte de mine d'anecdotes sur Kessel extraordinaire. Il y a notamment un concours de cuite avec Humphrey Bogart. Humphrey Bogart lui lance un défi en disant « qui est-ce qui tient le mieux l'alcool ?» Et c'est Kessel qui gagne. Bogart est retrouvé dans sa Rolls en train de nager sur la banquette arrière parce qu'il a tellement bu qu'il pense qu'il est dans le Pacifique. Ce passage est génial. Et un autre passage, ce que j'ignorais, lorsque Kessel rentre à l'Académie française, Pagnol, tu en parlais Nelly, porte une cape en léopard en honneur du lion. Il n'y a que des anecdotes, mais vraiment... incroyable.
Dictionnaire amoureux
de Kessel, et donc Olivier Weber chez Plon.
Dans cette fameuse collection, Jean-Claude.
Ben moi aussi, une anthologie, puisque c'est l'été, c'est le temps de lire, de découvrir, de redécouvrir. C'est les 10 tomes, 75 romans, 28 nouvelles de Tout Maigret chez Omnibus. Parce que chaque volume est un peu lourd. Parce que pour bien connaître Simenon, il faut sonner chez Maigret et suivre l'inspecteur. Vraiment. C'est-à-dire, c'est un impressionniste de Paris. Il regarde le petit peuple des trottoirs. Là aussi, c'est une France qui a disparu. Là aussi, c'est une France un peu figée. Là aussi, on peut aussi dire ça. Il se coule dans les ambiances de Bock et de Bougna, Gouailleur, de ce Paris disparu. Ce personnage est absolument formidable. Il a quand même écrit pendant 40 ans autour de Maigret. C'est une vision aussi, non seulement d'un Paris, mais d'un peuple, d'une histoire qui a disparu. Lise Maigret, et alors chaque volume, c'est 10 tomes, il y a des préfaces, et je vous recommande notamment ceux où il y a les préfaces de Pierre Assouline, de Philippe Claudel, de Bertrand Tavernier, et aussi de Denis Tillinac.
Et c'est chez
Omnibus.
Omnibus. Mon conseil, c'est Mes maisons d'écrivains d'Evelyne Bloch-Dano, c'est chez Stock, c'est un gros livre, c'est 25 ans de visite de maisons d'écrivains en France, à l'étranger. Alors bien sûr, il y a celle qu'on connaît, dont la villa de Malaparte à Capri, dont on apprend d'ailleurs qu'elle a failli devenir la gardienne, je vous en dis pas plus. La vallée au loup de Chateaubriand, évidemment le Guernesey de Hugo, la tour de Montaigne, les grands hôtels normands de Proust, le pavillon mais tristounet à pleurer, comme dirait Nelly de Beckett à Ussy-sur-Marne, le parc de Brangues, où j'ai découvert que Claudel dormait sous un peuplier, dans son propre parc, planté par Jean-Louis Barrault, ou évidemment la ferme africaine de Karen Blixen. Tout ça, c'est dans ce même livre, et c'est vraiment passionnant. On peut voyager intelligemment avec Evelyne Bloch-Dano chez Stock. Le conseil de Nelly.
Moi, c'est une curiosité, qui sont les mémoires d'une femme qui s'appelle Suzy Vis. Frédéric, peut-être toi tu en as entendu parler de Suzy Vis, qui était une égérie des années 60, qui était peut-être un peu la moins connue, mais la plus sulfureuse, qui a connu le tout New York, le tout Londres des années 60, qui a eu une liaison avec David Bowie, qui était amie avec Karl Lagerfeld, Jacques de Bacher, très proche d'Yves Saint-Laurent.
Normandie de Robert Cotard.
C'est pas vraiment la Normandie. Suzy Vis, who's the happiest girl in town, elle était assez obsédée par le sexe. Et elle raconte très 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 clairement les scènes de sexe, mais alors là c'est pas du tout porno, enfin ça va très très vite, on s'en fiche, c'est une espèce de plongée dans ce monde de la jet set des années 60, très artistique et très une bohème complètement libérée, et c'est absolument extraordinaire. Alors malheureusement c'est en anglais, Mais il y a énormément de photos.
Snob. Non,
mais ouais, c'est plus snob, c'est plus snob que Frédéric.
Oui, mais sinon, on peut rivaliser avec Frédéric.
Elle conseille à lire sur la jet set et en anglais.
Mais darling, il y a beaucoup de photos.
Tu sais qu'on a beaucoup d'éditeurs. Bon, allez vite, parce que l'émission se termine.
Non, mais moi, j'ai complètement oublié qu'il y avait un conseil à donner. Alors, je redirai DV, les mémoires de Diana Vreeland.
Voilà.
J'ai séguié parce que
c'est traduit en français pour la première fois. Extraordinaire. Chaque phrase est géniale.
Et pas non plus le Pays de Caux de Robert Cottard. Tous ces livres, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr, merci Nelly Caprielian, Olivia de Lamberterie, Jean-Claude Raspienjas et Frédéric Becbédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance française. Et je les remercie. Il y avait Valérie Lavalard, Julie Garraud ainsi que Pierre-Henri. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Attention, attention, notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, eh bien, il aura lieu le mercredi 14 août. Exceptionnellement, ce sera au Grand Contrôle, 80-87 rue du Charolais dans le 12e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée à la rentrée littéraire et l'autre à la rentrée du cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.